Alors, je m'appelle Yves, je suis un ancien pilote privé. J'ai commencé à voler en 1979. J'ai passé ma licence en 1980 sur des Piper L4. Et puis, un petit peu après, j'ai continué à voler au club à Lausanne, sur les avions du club. J'ai volé aussi sur des Piper Cherokee. Et puis, après, j'ai eu la possibilité d'acheter un petit avion. C'était un Jodelle d'Air 220, parce que j'avais envie de voler un petit peu plus que ce qui était possible au club. C'est toujours difficile de voler, enfin de faire des week-ends ou des choses comme ça quand on est au club, parce qu'il y a des problèmes de réservation, des choses de ce genre-là. Donc là, c'était un petit avion de plus de place, 100 chevaux, donc c'est un bon compromis. Ça permet de faire quand même du voyage, ça coûte pas trop cher, et puis c'est un avion qui vole très bien. Enfin, j'étais déjà intéressé par les avions anciens, comme beaucoup de gosses à l'époque, je pense. On rêvait d'avions de la dernière guerre mondiale, Spitfire, Mustang, etc., etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait le GH à Lausanne, qui avait le Mons Major qui était disponible pour voler. À l'époque, je crois d'ailleurs, c'était le seul avion que le GH avait. Ils en ont acheté d'autres par la suite, parce que c'était le seul avion. Et puis, à l'époque, il suffisait, entre guillemets, d'avoir 150 heures de vol pour voler sur le Mons Major. Puis comme ça, vous avez quand même rêvé de voler dans un biplan. Le fait qu'il était disponible à Lausanne, c'était, je crois, à l'époque, le seul biplan disponible. Ben, quand j'ai eu mes 150 heures de vol, j'ai fait la transition, puis ça c'est parti comme ça. Puis après, j'étais toujours un petit peu partagé entre mon Jodel, où je faisais un petit peu plutôt du vol de tourisme. Donc j'ai fait pas mal en France et un peu en Europe. Ben, j'étais toujours intéressé par les vieux avions. Puis à un moment donné, il y avait de l'activité aussi au hangar de l'AMPA. Alors moi, j'ai raté la grande époque des tout débuts de quelques années. J'ai failli y aller, puis en fait, ça s'est pas fait. À l'époque où ils ont restauré le Morane 317 et d'autres avions. Donc ça, je n'ai pas fait partie. Je suis venu un petit peu après. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, l'équipe motrice qui faisait vivre l'atelier de l'AMPA, et en fait, ils avaient à peu près tous le même âge. Et ils ont tous été pris à peu près en même temps par les obligations professionnelles, par la famille et des trucs de ce genre-là. Et ils n'avaient plus le temps de venir à l'atelier. Et en fait, il y a eu un trou d'air en fait, dans l'activité de l'atelier. Et puis pour éviter en fait, que ça s'arrête, j'ai repris avec des jeunes à l'époque. Ben, il y avait déjà Edouard à l'époque, je crois. Et puis on a essayé de relancer l'activité comme ça. J'ai eu l'occasion aussi de prendre une part sur le Morane 317. J'ai volé aussi sur l'autre Chipmunk, celui qui a été cassé, malheureusement. Au GH, entre-temps, ils avaient acheté aussi un Zlin. Donc j'ai volé sur le Zlin. Alors au niveau de l'AMPA, quand j'ai rejoint, c'était justement pour m'occuper de l'atelier. L'activité a été un peu arrêtée. On a voulu commencer par un projet pas trop ambitieux, on va dire, comme les gens n'avaient pas d'expérience et moi j'avais pas beaucoup d'expérience non plus. Alors mon expérience, enfin l'avantage que j'avais, c'est que j'avais un projet de construction amateur, donc je m'étais quand même pas mal renseigné pour les techniques de construction. Bon, pour le coup, j'avais quand même un petit peu de background technique, pas forcément sur tout, un peu moins sur les moteurs, mais tout ce qui était cellules, instruments. Les bonnes pratiques de fabrication aéronautique, un peu l'entoilage aussi, ce genre de choses, j'avais quand même des notions. Et puis le background aussi, c'est que j'ai une formation d'ingénieur en mécanique à la base. Donc le petit projet qu'on avait lancé à l'époque, c'était le bébé Jodel. Alors c'était peut-être pas un avion qui avait un gros potentiel historique, on va dire, même si pour les gens qui connaissent, c'est quand même toujours intéressant. Je veux dire, c'était pas un biplan, c'était pas une machine, une ancienne machine de l'armée, comme un D-26 ou un truc de ce genre-là. Mais l'idée aussi, c'était de faire quelque chose qui était un peu à notre portée, pour éviter d'être dépassé par quelque chose qui était trop compliqué pour nous, en fait. Voilà. Voilà. Et puis, les Jodel, c'est des avions en construction en bois, bois étoile. Et quand on a détoilé l'aile, c'est là qu'on a vu que la restauration sera un petit peu plus longue que ce qu'on avait pensé. On a passé, je crois, à peu près 2 ans à réparer, à refabriquer l'aile. L'engeron était encore au bon état, mais il y avait beaucoup de collage qui avait lâché, qu'il a fallu refaire. Le bord d'attaque aussi, le bord de fuite était en mauvais état, on a tout dû les refaire. Et puis, donc ça nous a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on espérait. Moi, j'imaginais qu'en 2-3 ans, c'était fini. Détoiler, remettre de la toile, un petit coup de peinture, et puis c'était parti. Donc il y avait ça, le fuselage, il y avait le couple moteur aussi qui était décollé. Donc il a fallu le refabriquer, ajuster, recoller. On a profité pour mettre un moteur neuf qui nous avait été généreusement donné par un ami. Et puis, on a fait l'entoilage à l'époque. On avait la chance en fait, d'être supervisé par Daniel Coblette, qui avait la licence bois étoile. Donc, il nous avait laissé, enfin, il supervisait, il venait quand même regarder ce qu'on faisait. Mais on avait fait un entoilage dans son atelier. D'empennage pour nous expliquer comment ça fonctionnait et puis ça nous permettait de nous mettre en chantier. Puis tout le reste on l'a fait nous-mêmes, alors il venait régulièrement regarder ce qu'on faisait. Quand il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas sûr, on vérifiait avec lui pour être sûr qu'on mettait ce qu'il fallait au bon endroit. Et puis donc on a fait l'entoilage complètement nous-mêmes. Donc ça c'était un gros plus en fait, les gens qui ont participé, ils ont appris à faire de l'entoilage. On a appris aussi à faire du lardage, c'est-à-dire que la toile, en fait, pour qu'elle tienne sur les nervures, on est obligé de la larder. C'est-à-dire qu'on prend un fil et puis on coud. Alors il y a plusieurs techniques. Là, on a fait dessus-dessous, c'est-à-dire les fils traversent de l'extrado à l'intrado, là où sont les nervures, pour éviter qu'en vol, en fait, la toile gonfle ou se déforme. Ça, c'est aussi une technique intéressante. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que quand on fait de l'entoilage, poser la toile, c'est la moitié du travail. Et l'autre moitié, c'est justement le lardage. On passe autant de temps à faire la finition, à faire les couches de vernis, de tension, ce genre de choses. Ça prend pas mal de temps. Ouais. Et puis, c'est vrai aussi qu'on avait passé pas mal de temps parce qu'on voulait que ça soit une belle réalisation. On ne voulait pas faire un truc rapide, un peu à la truelle. Donc on a passé peut-être un petit peu plus de temps que ce qui aurait été raisonnable, on va dire. Mais on a fait les choses bien. L'idée, c'était aussi de partir sur le bon pied, on va dire. Non, ben maintenant aussi, on a Vincent qui surveille, qui est aussi mécanicien d'aviation. Il a un œil, lui, il voit tout. Hein. Même des fois, des fissures, on ne les a pas vues, lui, il les voit. Donc. Et puis, il est très rigoureux aussi, donc ça, c'est aussi une bonne chose. Ça évite aussi de toujours un petit peu faire moins et puis d'arriver à un travail qui n'est pas satisfaisant finalement. Puis bon, l'idée aussi c'est que nous on n'est pas particulièrement pressé. Bon, on essaye quand même de faire en sorte que les projets avancent un petit peu, mais on n'a pas de délai, on n'est pas tenu. Nous ce qui nous intéresse c'est le résultat, c'est pas tellement le timing. Quand on commence une restauration, les 2 premières années pratiquement c'est que du démontage. Là par exemple c'est pareil, on vient d'attaquer les ailes, bon, on a fait que de démonter des pièces. Et pendant presque la moitié de la restauration en fait c'est démonter, nettoyer, repeindre. Donc c'est vrai que visuellement c'est pas très motivant, on va dire. C'est un problème général quand on fait soit de la construction amateur ou de la restauration. C'est vraiment un travail de fond, il faut vraiment s'accrocher pour ne pas se laisser démotiver, on va dire. J'ai arrêté de voler aussi à ce moment-là, c'était en 2005. Et puis là, en fait, c'était bien reparti. Il y a Edouard Schubert qui avait repris la présidence déjà, qui s'occupait aussi de l'atelier. Donc il a pu aussi un petit peu gérer le déménagement quand l'aéroport de la Blécherette s'est modernisé et a changé. Nouveau hangar et tout, ouais, nouvel atelier. Donc c'est vrai que l'atelier qu'on avait avant, c'était vraiment rustique, pour ne pas dire plus. Et puis là, ça commence à être relativement confortable quand même. On a plus d'outillage qu'avant, même si à l'époque j'avais quand même aussi acheté minimum d'outillage. On avait vraiment, par exemple pour le rivetage, j'avais pris ce qu'il fallait pour faire du rivetage, donc on avait vraiment l'outillage de base. C'est des choses sur lesquelles il faut pas économiser, c'est des fausses économies en fait. Et puis, juste avant en fait que je m'éloigne pour quelques années, l'activité était bien repartie. Et entre autres, il y avait déjà même avant que le bébé Jolet commence à voler. Il y avait déjà le Pilatus P3 qui était en cours de remontage, vu qu'on l'avait reçu en pièces détachées, qu'on l'avait repeint, enlevé les équipements militaires, mis des équipements civils, donc ils avaient été mis au standard civil pour certains nombre de choses, repeint, et puis il y avait aussi un peu en parallèle le Messerschmitt 108 dont Edouard s'occupait principalement. Donc oui, donc ça veut dire qu'en quelques années, il y a eu trois avions quasiment neufs en fait. Après, je suis revenu, donc après avoir digéré ma perte de licence de pilote privé. Je suis revenu il y a quelques années. Et puis, je fais un petit peu de tout. Donc, de temps en temps, je donne un coup de main sur des parties techniques que je maîtrise. Par exemple, de la tôlerie simple, ça, j'arrive à faire. Le travail du bois, ça aussi, je me débrouille. Donc, je suis un petit peu polyvalent. Je fais pas absolument tout, mais j'arrive à me débrouiller. Et puis, là, je suis en train de m'occuper des ailes du Tiger Mons. Donc, je vais m'occuper essentiellement de la menuiserie, parce que là on doit refaire toutes les ailes. Alors l'organisation, je ne suis pas le seul, mais oui, on essaye aussi de remettre un petit peu, de remettre de l'ordre, parce que c'est le problème quand on travaille comme ça avec des bénévoles, et puis dans un cadre qui n'est pas professionnel, il y a beaucoup de gens qui viennent, les gens viennent certaines fois que le matin, que l'après-midi, donc il y a un problème de continuité, et puis les gens ne savent pas toujours où sont les outils, ne savent pas toujours où ils doivent être rangés. Donc on essaye de faire en sorte maintenant que chaque outil ait sa place et puis qu'il n'y ait plus de problèmes de ce genre-là. On est quand même en train de faire de restaurer des avions. On ne peut pas se permettre aussi d'avoir des outils qui disparaissent, qui peuvent être dans un avion. Voilà. Alors peut-être qu'ils sont juste perdus quelque part dans l'atelier ou empruntés par quelqu'un, je ne sais pas. Mais sur le fond, ce n'est pas possible. Donc, c'est un petit peu le constat de l'atelier à l'époque où je l'ai repris. En fait, le problème qu'il y avait, c'est que les gens qui étaient là, qui ont lancé l'atelier, c'était des personnes très capables. Il y avait des gens qui avaient des mains en or. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas trop de relève. Et comme ils avaient tous le même âge, donc ce que je me suis aperçu, c'est que si on n'a pas une relève avec des gens, des jeunes qui viennent, forcément, au bout d'un moment, ça s'arrête. On peut pas avoir. Il faut vraiment avoir plusieurs classes d'âge. Et c'est quelque chose que j'avais essayé de faire justement. En essayant de faire venir des jeunes, sachant que les jeunes, des fois, ils viennent quelques années et puis après, ils repartent ou quelques mois. C'est pareil, hein, des fois, ils doivent. La famille ou professionnellement, ils se déplacent ou ils n'ont plus le temps de faire ça. Mais bon, ça fait rien, je veux dire. On ne va pas s'investir forcément sur tous les gens en regrettant quand ils nous quittent. Mais c'est important d'avoir tout le temps des nouveaux. Et ça, c'est aussi un truc qu'Edouard a conservé et continue de faire, c'est faire en sorte qu'il y ait de la relève tout le temps. Et je pense que c'est bien, alors non seulement à l'atelier, mais c'est aussi quelque chose qui se fait au niveau des pilotes. Moi, je voyais que c'était vraiment. On a eu le camp d'été, là, en juillet, et c'était vraiment sympathique de voir qu'il y avait des jeunes, des vieux, et puis tout se passe bien. Alors, ça se mélange, et puis c'est pas de la ségrégation où les gens restent chacun de leur côté. Puis après, c'est pareil, je veux dire, l'AMPA, il y a l'atelier, c'est une partie importante, mais il n'y a pas que l'atelier. Donc, effectivement, le fait d'avoir des gens qui viennent pour faire des photos, éventuellement pour le calendrier, qui travaillent au comité, qui organisent des fly-in, des choses comme ça, c'est aussi important. Et puis, il y a aussi une chose qui est de plus en plus importante, je pense, dans l'association, c'est que moi, quand j'ai commencé à voler, en fait, au club, il y avait encore trois pipères L4, donc c'est des vieilles machines avec la roulette de queue. Il y avait déjà des avions un peu plus modernes, comme les Cessna 150 ou 152. Et puis, quelques années après, en fait, ils ont liquidé les pipères L4 parce qu'ils étaient plus représentatifs de machines pour faire de la formation, on va dire. Ils n'avaient pas de radio à l'époque, il n'y avait pas de confort, il n'y avait même pas de casque à l'époque. Hein. Quand j'ai commencé à voler, il n'y avait rien pour protéger les oreilles. Donc on revenait du vol de navigation, c'était 1h30 de vol ou 2h de vol ou un truc comme ça, on était quasiment sourds. Quoi. Et le problème par contre, c'est qu'à l'époque, en fait, c'était facile de trouver des pilotes qui avaient été formés sur Piper L4, roulette de queue, et de les faire transiter sur des machines comme les anciennes machines qu'on a, qui sont pratiquement toutes à roulette de queue. Parce qu'on a déjà les bons réflexes. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes pilotes, ils ont appris sur des avions à roues de proue, où l'atterrissage est un petit peu moins critique qu'avec un avion à roulette de queue. Et on peut se permettre d'arriver un petit peu plus plat, d'avoir une assiette différente. Alors qu'en L4, si on n'arrive pas comme il faut, si on fait un atterrissage 3 points, il faut vraiment arriver 3 points. Si on ne le fait pas, ça va se terminer très mal. Puis il y a des techniques aussi pour récupérer en cas de problème. Enfin, il y a des techniques qui sont un petit peu plus pointues que pour un avion moderne, entre guillemets. Et donc là, je m'égare un peu, mais l'idée, c'est qu'aussi maintenant, on n'a plus ce réservoir de jeunes pilotes qui sont déjà formés aux lettres de queue. Et le fait qu'on ait des instructeurs maintenant qui s'occupent de faire ça, c'est important. Parce que si on n'a pas ça, un jour, on n'aura plus de pilotes pour faire voler nos machines. L'autre activité que j'ai aussi, c'est, mais je ne suis pas le seul, pour l'instant, je supervise un petit peu les visites de l'atelier. Je profite que je suis à la retraite, et c'est une activité qui se développe pas mal. Donc j'ai commencé à reprendre ça l'année dernière. Comme je disais, il y en avait déjà qui se faisaient, entre autres Camille et d'autres qui en faisaient. Et là, c'est bien parce qu'en fait, on a des classes, des entreprises, des associations, et ça permet de faire connaître l'aviation et les vieux avions. Et de défendre aussi l'aviation, ouais. Mais déjà juste la faire connaître. La plupart des gens en fait qui viennent faire la visite sont surpris, et agréablement surpris en fait, de ce que c'est. Ils voient que c'est aussi quelque chose d'accessible, on n'est pas des millionnaires. Hein. Il y a aussi des pilotes qui sont des citoyens ordinaires, qui vivent bien mais qui ne sont pas forcément dans le luxe. Et c'est vraiment des passionnés. Donc ça aussi c'est quelque chose qui plaît aux gens, de voir que les gens sont passionnés au point de passer tous les samedis à l'atelier, passer des heures et des heures à restaurer des avions, à les faire voler, à les entretenir. Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Puis ça fait encore rêver les enfants.